Ce matin, ah non, cet après-midi, à la liturgie de Saint-Basile, j'ai essayé de vous montrer, à partir de l'épître aux Galates que nous avons entendu, j'ai essayé de vous montrer comment Saint-Paul, avec fulgurance, nous exprimait qui est le Christ. C'est-à-dire qui est celui que nous célébrons, dont nous célébrons la venue aujourd'hui. Et je vous ai remarqué aussi l'importance de cette révélation aujourd'hui. C'est-à-dire que celui qui s'est manifesté, Dieu lui-même, en Christ, ce n'était pas hier, mais c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que, d'une manière mystérieuse mais réelle, nous sommes rendus présents à cet événement qui a eu historiquement lieu il y a 2020 ans. Mais nous y participons réellement. Donc nous pouvons chanter sans hypocrisie ce que nous avons chanté à la fin de la liturgie. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste. Et je vous dis ça pour introduire l'autre épître que nous avons entendue tout à l'heure, très courte. Et je vais reprendre quelques termes de ce que nous avons entendu tout à l'heure. Quand fut venue la plénitude des temps, la plénitude des temps, vous allez voir le parallèle avec l'épître de cet après-midi, où Saint Paul, où l'Épître aux Hébreux évoquait tout ce que Dieu avait fait du temps des prophètes et tous les prophètes qu'il avait suscités, en montrant que celui qui est né aujourd'hui dans la grotte de Bethléem est infiniment supérieur à tout cela. Et bien justement, dans cette autre phrase des Galates cette fois-ci, qui n'est pas des Galates, mais de l'Épître aux Galates, hein, il faut que je fasse une petite allusion à propos des Galates. Mais après, ça reprend le même thème que celui de ce matin. Ce matin, ou hier après-midi, je vais me tromper à chaque fois, mais pendant les vêpres, la liturgie de Saint-Basile, Saint-Paul montrait que les prophètes avaient préparé la venue du Sauveur, et maintenant le Sauveur venait. Maintenant, c'était une autre ère. Un nouveau monde. Eh bien, voilà la plénitude des temps. C'est quand tous les temps anciens sont accomplis. Maintenant, nous arrivons dans la fin des temps, non pas l'extrémité, mais la finalité des temps. La finalité des temps que Dieu a créé, c'était pour réussir, pour préparer le peuple et les peuples à recevoir sa révélation, à le recevoir en eux-mêmes. Et cette plénitude des temps est arrivée. Et cependant, je vous montrais ce matin au Vêpres que les choses étaient déjà accomplies, mais elles devaient encore venir. La plénitude des temps est réellement accomplie, et pourtant, il faut encore que nous attendions son achèvement plénier. Au moment de la seconde parousie, au moment où le Sauveur reviendra en gloire dans le monde. Je fais la petite parenthèse, je suis des Galates. C'est pour flatter notre orgueil. Vous savez, on ne sait pas qui c'est exactement ces Galates. On dit souvent que les Galates, c'était une région, la Galatie, une région qui se trouve en Asie mineure, en Turquie aujourd'hui. Mais c'est contesté par beaucoup. Parce que rappelez-vous qu'à un moment donné, Saint Paul avait émis le désir de venir dans les Gaules jusqu'en Hispanie, jusqu'en Ibéria, jusqu'en Espagne. Et ces lettres, ces épîtres, des épîtres ne sont pas parvenues pour nous dire s'il y est allé ou il n'y est pas allé. Il y a un trou dans son dans son calendrier, dans son agenda, et là on ne sait pas. Vraisemblablement, il est venu tout de même en Espagne. Il y a aujourd'hui au moins 3 églises sur la côte espagnole, 3 églises qui sont dédiées à Saint Paul, où on dit que Saint Paul s'est arrêté là. Et ça, des traditions comme ça, sont des traditions orales, mais elles révèlent souvent quelque chose. Tout ça pour vous dire que les Galates peuvent être très bien être le pays des Gaules. Et l'épître aux Galates, c'était peut-être à nous, que c'était à nos ancêtres, du moins, que ça avait été directement écrit. Peut-être. De toute manière, que ce soit pour nous ou pour d'autres Galates, c'est valable pour toute l'Église. C'était simplement pour la petite histoire, si je puis dire. Donc, quand est fut venue la plénitude des temps dans laquelle maintenant nous sommes, Dieu envoya son Fils, devenu enfant d'une femme, ce qui montre son incarnation, qui est devenu, il a pris une nature humaine, devenu sujet de la loi, c'est une insistance, le sujet de la loi, c'est-à-dire astreint aux obligations des lois de l'Ancien Testament, des lois de Moïse, qui s'étaient multipliées et atrophiées, avec les, notamment avec les pharisiens, à l'époque où il est venu. Et pourtant, il s'est assujetti à cette loi-là. Mais quand on dit qu'il est devenu sujet de la loi, ce n'est pas simplement de la loi mosaïque, c'est-à-dire la loi de Moïse, hein, pas la loi des petites ailes qui font des mosaïques. La loi à laquelle il se soumet, c'est aussi la loi du monde. Saint Paul, à d'autres mondes, à d'autres moments, montre que la loi était un outil, des rails pour nous permettre de nous unir préalablement avec celui qui allait venir. Mais il montre aussi que la loi est un, j'ai oublié le mot que je cherche, la loi est aussi un objet de malédiction. C'est-à-dire que la loi nous enferme aussi la loi est humaine, elle est divine de son origine, mais elle est transposée par des hommes. Et il y a une forme d'humanisme dans cette loi-là. Donc quand on parle que le Seigneur est devenu sujet de la loi, c'est-à-dire sujet de ce monde aussi dans lequel règne effectivement la loi. Et il ajoute, afin qu'en échange de la servitude, nous soyons adoptés comme fils. Ça, c'est une révélation extraordinaire. En échange de la servitude, quelle servitude? La servitude, l'esclavage dans lequel nous sommes, c'est l'esclavage de notre nature déchue, non pas seulement assujettie à la loi de Moïse, mais assujettie à la loi du monde, de ce monde déchu. Et en échange de cette servitude, de cet esclavage que la plupart de nous connaissons par nos passions, par nos péchés, par notre propension à nous écarter de Dieu et à faire le mal plutôt que le bien, en échange de cette servitude que le Seigneur adopte lui-même sans se rendre esclave, en étant maître de cette servitude-là, il fait en sorte que nous soyons adoptés comme fils. Lui-même est fils du Père, et en s'incarnant aujourd'hui, il fait en sorte que nous devenions nous aussi des fils. Et Saint Paul ajoute, et puisque maintenant vous êtes des fils, je me permettrai d'extrapoler, de parodier un peu ce que le Seigneur dit, ce que Saint Paul dit, puisque maintenant vous êtes des fils comme moi, je suis fils, enfin moi, Christ évidemment. Puisque maintenant vous êtes fils comme moi, je le suis, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. L'esprit de son Fils revêt deux significations. L'esprit de son Fils, c'est l'esprit que le Fils a envoyé à la Pentecôte sur les apôtres. Donc c'est l'Esprit Saint. Mais dans le cadre de ce que je sais de vous expliquer souvent de notre incorporation au Christ, de notre union intime, profonde et totale avec lui. Non seulement nous participons à son corps, j'ai pas dit à sa chair, non seulement nous participons à son corps, mais nous participons à sa vie, c'est-à-dire à son esprit. J'ai pas dit à son intelligence, pas à sa clairvoyance, je ne dis pas à sa pensée, si vous voulez. Mais l'esprit qui est le sien, il nous le communique justement par la communion eucharistique que nous adoptons, que nous assimilons par notre prière et par notre ascèse. Notre prière et notre ascèse ne sont pas des sacrifices, ne sont pas des privations que l'on offre à Dieu, dont il n'a rien à faire. Ce sont des moyens qui nous sont donnés, qui nous sont offerts pour adapter notre vie et notre esprit personnel à l'esprit du Christ, de manière à ce que nous ayons qu'un seul esprit. Et son esprit, l'Esprit Saint et son esprit à lui, quelle en est la conséquence? Ça fait que tout son être, divin et humain, puisqu'il s'est incarné et qu'il est venu complètement homme, recevant, vivant avec cet esprit dont il n'a jamais, l'Esprit Saint, dont il n'a jamais été séparé dans son incarnation, bien qu'il ait renoncé par sa kénose à l'exercice de cette connaissance supérieure qu'il avait en tant que Dieu et de cette gloire, l'esprit qu'il a reçu, qui a plané sur lui au moment du baptême, sous forme de colombe, avec la voix du Père qui lui parlait, ça fait que le Christ, à tout moment de sa vie, dans les pires tentations, dans les pires épreuves, y compris à Gethsémani, quand il assumait cette effroyable solitude, où il avait l'impression d'être abandonné par tous, et où certainement l'assédie le tentait, bien qu'il n'y soit jamais tombé, il n'est jamais tombé justement parce qu'il disait ce que l'Esprit lui insufflait, il disait « Abba, Père ». Malgré toute la souffrance, toutes les tentations, il se remettait constamment à son Père en disant « Abba, Père ». Et dans ce « Abba, Père », je voudrais vous montrer maladroitement que Père n'est pas la traduction de Abba. Dans notre vocabulaire courant, c'est devenu comme ça. Abba, Abba Agathon, on dit ça, ça veut dire le Père Agathon, on dit ça. Mais Abba, c'est comme si on disait papa. C'est ce terme d'intimité d'un fils avec son père, papa. Et ce serait vulgaire de traduire l'évangile comme ça, mais en quelque sorte, à chaque instant de sa vie, le Christ avait cette conscience tellement profonde de sa filiation avec le Père que l'Esprit Saint lui faisait dire « Papa ». Rien que ce mot-là montre l'intimité, montre le dynamisme que le Christ avait à l'égard de son Père. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Si vous le comprenez un peu, écoutez alors la dernière phrase de l'épître d'aujourd'hui. Donc, tu n'es plus esclave. Saint Paul s'exprime, nous vise chacun d'entre nous. Donc, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Eh bien, si tu es fils, tu es aussi héritier Depardieu. Depardieu, ce n'est pas la gare de Lyon. Hein. Et souvent dans les traductions, j'en ai corrigé une tout à l'heure, on dit tu es héritier de Dieu. On n'est pas héritier de Dieu. Mais saint Paul nous dit, si tu es fils, tu es héritier comme le fils, tu hérites de la filiation, mais de par Dieu, de par la grâce de Dieu. C'est-à-dire pas par ta propre œuvre, mais véritablement par la grâce de Dieu qui gratuitement, librement, te fait accéder à une condition qui n'est pas la tienne, celle de fils. De manière à ce qu'après, tu puisses dire toi aussi, papa, père. Et toute notre vie chrétienne, sous tous ces aspects, nous fait prendre conscience de cet héritage de par Dieu, de la grâce de Dieu, qui nous permet, comme le Fils, de nous adresser aussi au Père en disant « Abba, Père ». Inversement, les tentations, les péchés, les passions qui peuvent nous éprouver, non, dans ces passions, dans ces péchés qui nous éprouvent, les démons, le diable, n'a qu'un but. Il ne peut rien pour nous, nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus ces esclaves. Nous sommes libres. Nous sommes des fils. Cependant, par toutes ces impuretés, par toutes ces fautes, toutes nos passions, le diable essaie de nous empêcher de jouir de notre liberté pour être devant Dieu, en nous faisant nous renfermer sur nous-mêmes pour contempler le mal qu'il y a en nous, de manière à ce qu'on se focalise sur son petit moi, mes petites fautes, qui sont peut-être grosses, mais enfin. Et nous empêche de respirer l'air libre, le souffle de l'Esprit Saint et de nous présenter devant Dieu. Et si nous prenons au sérieux une célébration, une fête comme celle d'aujourd'hui, autrement comme le mémorial d'un événement passé, si vraiment nous croyons que c'est aujourd'hui que cela se réalise, nous ne pouvons pas changer complètement notre caractère et nos passions. Hélas, nous n'avons pas toujours le courage de les dominer. Cependant, même si nous sommes encore éprouvés par ces passions, nous pouvons les laisser derrière nous en disant « je ne veux pas m'y attacher, je veux simplement dire « Abba, Père ». Et vous comprenez que rien que dans ces deux mots, il y a l'expression de toute une joie, de toute d'un accès à une condition de vie qui ne nous est pas ordinaire. Et j'espère, je crois, d'après les épîtres de saint Paul encore, que beaucoup d'hommes et quelques femmes, non, beaucoup de femmes aussi, seront vraisemblablement sauvés. Mais je crois que la chance, le bonheur, le mystère du chrétien, c'est d'avoir cette joie du salut, c'est-à-dire de la vie divine. Aujourd'hui, de pouvoir dire aujourd'hui « Abba, Père », avec cet amour, ce don de soi, en réponse au don que Dieu nous fait, d'avoir cette joie consciemment, alors que les non-chrétiens ont peut-être peuvent avoir la même expérience, mais pas comme une expérience, comme une espérance seulement. Entrer dans ce mystère de Noël, entrer dans cette joie de Noël et tout le temps répéter « Abba, Père ». Quand vous dites la prière de Jésus, C'est ça que vous dites. Abba, Père. Quand vous vous réjouissez de quelque chose, même humainement parlant, tournez-le vers Dieu, remerciez Dieu, Abba, Père. Quand vous êtes attaqué par des passions, quand vous avez des déceptions, quand vous avez des épreuves, quand vous pleurez, quand vous avez des drames, tournez-vous vers ce mystère de l'incarnation et dites Abba, Père. C'est des mots que vous ne pouvez pas dire par vos propres... On peut les dire machinalement, mais on ne peut pas les penser, on ne peut pas les exprimer du fond du cœur, si ce n'est pas l'Esprit Saint qui le distille dans nos cœurs. Et l'Esprit Saint ne pourrait pas le distiller dans nos cœurs si nous n'étions pas préalablement un avec le Christ. J'ai scrupule souvent à vous présenter ces aspects de notre foi. Parce que il est plus facile d'écouter des considérations morales, de dire ce que c'est que l'obéissance, ce que dire la prière, ce que dire l'humilité, de parler des vertus ou des passions. Mais il me semble que ces discours utiles n'ouvrent pas, ouvrent sur des devoirs à l'égard de Dieu, mais n'ouvrent pas directement sur une connaissance et un amour intime de Dieu. Alors que, en vous présentant comme le fait saint Paul, en essayant de monnayer ce que dit saint Paul, il me semble que la reconnaissance que l'on peut avoir des mystères qui nous sont offerts, dont nous sommes héritiers, peut nous ouvrir à une reconnaissance, nous ouvrir à un partage joyeux, à un échange de vie. Car tout tourne autour de ça, un échange. Qu'est-ce que la vérité? Demande Pilate avant de condamner le Christ. Qu'est-ce que la vérité? Et le Christ ne répond pas, parce qu'à la vérité, il l'avait devant les yeux. La vérité, c'est cet échange que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. La vérité, c'est que nous recevons cet héritage. Et je dis bien, c'est probablement la dernière chose que je vais vous dire cette nuit, je dis bien héritage. Vous savez, au moins dans nos pays, au moins en Occident, ailleurs je ne sais pas, quand on lit l'Ancien Testament, on parle toujours de l'alliance que Dieu fait avec les hommes, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, et dont on peut suivre le développement, les renouvellements de cette alliance et les approfondissements de cette alliance jusqu'au Christ et jusqu'à maintenant. Mais le terme alliance n'est pas juste. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne parle pas du livre de l'Ancienne Alliance et du Nouvelle Alliance, mais on parle de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Parce qu'une alliance veut dire un contrat entre deux parties, entre Dieu en l'occurrence, entre Dieu et l'homme. Mais Dieu ne fait pas de contrat avec nous. Dieu nous donne librement. Il lègue quelque chose. Il nous lègue sa vie. Il nous donne un héritage, mais gratuitement. Il signe, je vous donne ça, et il ne nous demande rien en échange. La seule chose que ça implique, c'est nous accepter cet héritage. Mais ce n'est pas un contrat que Dieu fait avec nous. C'est un appel, un cri, un don, une extase, une sortie de soi, une kénose, qui fait que, bénéficiaire de ce testament, héritant de ce don extraordinaire, nous pouvons sentir dans notre cœur un désir de répondre un peu, autant que faire se peut, à cet amour, donc de désirer Dieu et de vouloir lui dire justement « Abba, Père ». Vous savez, il y a un fabliau du Moyen-Âge qui met en scène celui qu'on appelle le mendiant d'amour. C'est un prince, un roi, jeune, beau, riche, comme tous les princes, qui a tout, mais qui cherche l'âme sœur. Et pendant qu'il est parti à la chasse dans un bois, à un moment donné, il tombe sur une masure délabrée, et là, il voit la propriétaire, qui est une fille avec un nez comme ça, un menton en galoche, des poils partout sur les poireaux que lui poussent sur le visage. Enfin, un laideron, quoi. Vêtue de haillons. J'espère que vous ne mettrez pas ça directement.
Ah, ça passe sur Internet. Hein,
bref, il tombe sur un laideron, sur une pauvresse semi-sortière. Et il l'aime. Il l'aime. Et il est prêt à lui demander de l'épouser. Mais à la réflexion, il dit, si je lui demande de m'épouser, ou bien elle va avoir peur, elle ne va jamais vouloir. Donc ça va être fichu. Ou bien alors elle va accepter, mais si elle accepte, est-ce que ça va être pour moi qu'elle va l'accepter, ou c'est pour mes possessions? Et il revient dans ce château, dans son château, et là, il boit quelques filtres, de manière à devenir encore plus laid que cette pauvre fille. Et au mieux de chevaucher un beau cheval blanc, il prend une vieille carne boiteuse et il retourne dans les bois. Et là, il se met aux aguets de la masure, et quand la fille sort et qu'elle voit ce mendiant, elle a peur, elle rentre chez elle. Mais lui ne se décourage pas, il reste, il attend qu'elle ressorte. Et petit à petit, elle s'habitue à sa présence. Et quand elle est un peu habituée, qu'elle a perdu la peur, il s'approche doucement, et par des travaux successifs d'approche, petit à petit, c'est elle qui, voyant sa pauvreté à lui, a pitié de lui et l'aime. Et cet amour-là est un miracle. Il y a une inversion des choses, vous comprenez. Et comme elle se met à l'aimer par pitié, c'est-à-dire, non pas par intérêt personnel, non pas pour avoir un beau gars riche et plein de déplaignés, de voir plus pauvre qu'elle, elle ne peut pas ne pas vouloir aider, ne pas vouloir venir à son secours, elle ne peut pas ne pas l'aimer. Et à ce moment-là, le prince devenu mendiant d'amour peut lui déclarer sa flamme et lui demander de l'épouser. Et là, elle accepte par amour pour la personne et pas pour ce qu'elle a. Et là, il l'emmène. Et pour elle, c'est un changement de vie, évidemment. Elle vit d'une vie princière, mais non pas pour la jouissance de la vie princière, mais uniquement par amour pour cette personne. Eh bien, notre Dieu, notre Christ, c'est ce mendiant d'amour qui se fait aussi pauvre que nous, et même plus pauvre que nous, et je ne retombe pas encore dans la caricature que l'on fait du pauvre bébé qui naît dans une crèche, dans une mangeoire, dans de la paille. Tu parles, c'était de la paille en or, alors. C'est pas ce type de pauvreté, c'est la pauvreté d'un Dieu qui se fait le pire de sa créature, la créature déchue. De manière à ne pas nous faire peur, de manière à nous apprivoiser, pour que nous apprenions petit à petit à l'aimer pour lui-même et non pas pour ses dons, à l'aimer pour lui-même mais pas l'aimer pour les promesses du paradis qu'il nous a données, ne pas l'aimer pour l'héritage qu'il nous offre, mais de l'aimer parce que nous avons pitié de lui. Pitié au bon sens du terme, c'est-à-dire que nous avons de l'amour pour lui. Voilà la signification de la fête de Noël. Ah, encore un petit mot, je ne peux pas vous le dire. C'est juste une citation. Une citation du livre du Siracide. Il y a 4 ou 5 versets seulement. La sagesse, vous savez, quand on parle de la sagesse dans l'Ancien Testament, la sagesse c'est toujours le Sauveur, le Verbe de Dieu, celui qu'on appellera le Christ, celui qui se rappellera dans le nom sera Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, la sagesse exalte son âme. Vous voyez comment la sagesse exalte son âme en devenant mendiant d'amour? Comment la sagesse exalte son âme en renonçant à ce qu'elle est en tant que Dieu pour devenir homme avec tous les hommes, avec toutes les misères que nous connaissons? Au milieu de son peuple, elle chante sa gloire. Au milieu de son peuple, c'est-à-dire au milieu du monde dans lequel il est descendu, au milieu des hommes, la sagesse, le Christ, chante encore la gloire qui était la sienne dans le royaume de Dieu. Ailleurs, dans les cieux, j'avais ma tante T-E-N-T-E, hein, pas la tata, la tante pour faire des camps. La tente, dans l'Ancien Testament, c'était le temple, en quelque sorte, le lieu sacré que Dieu avait ordonné à Moïse de construire de manière à pouvoir être parmi son peuple. Mais la vraie tente du Christ, c'est la demeure des cieux. C'est là son origine, c'est là où il est. Donc dans les cieux, j'avais ma tente. Alors, le Créateur de toutes choses, entendez, le Père, m'a commandé. Celui qui m'a créé a fixé ma tente et il m'a donné une autre tente. Il m'a dit, quitte la tente dans laquelle tu es pour aller en trouver une autre. Et il m'a dit, en Jacob, c'est-à-dire en Israël, établis ta tente. Israël, c'est la figure de l'humanité. Donc va en Israël, va. Entre dans l'humanité, deviens homme. C'est là que tu dois établir ta tente. En Israël, reçois ton héritage. Et quel est l'héritage de la sagesse? L'héritage de la sagesse, c'est les hommes. Les hommes sont la gloire de Dieu. Les hommes sont la gloire de Dieu, non pas par leur qualité, mais parce que Dieu se donne à eux et les approprie, il les veut. Il les aime, et s'il les aime, il se donne à eux. Et il dit à son tour, « Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits. » Les fruits, c'est toutes ces grâces, c'est tous les sacrements, c'est tous les mystères, c'est tout ce que nous vivons en ce moment. Rassasiez-vous de cela, car mon souvenir est plus doux que le miel, et mon héritage, l'héritage qu'il nous donne, est plus plus doux qu'un rayon de miel. C'est ce que c'est un rayon de miel, hein. C'est les abeilles qui font des rayons, qui font les alvéoles bien rangés et qu'on peut récupérer et manger avec la propolis, manger le rayon de miel. Ceux qui ont goûté savent la douceur que ça peut avoir. Et quand vous avez entendu ça, comment douter après de cette autre phrase du Christ, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, car mon joug est suave et mon fardeau léger. » Mais les difficultés que vous avez, les drames que vous avez, les échecs que vous subissez, tout ça, c'est rien à côté de l'héritage que je vous fais. Et l'héritage que je vous donne, c'est de vous prendre en moi et d'échanger votre misère contre ma gloire. Moi, je porte votre misère et vous portez ma gloire. Vous n'avez pas envie de ça ? Voilà, si vous voulez ça, c'est ça la vie chrétienne.